RCF.
Alors on poursuit cette émission à partir de l'ouvrage du bienfait des controverses doctrinales dans l'Église avec le père Édouard d'Ivry. Bonjour.
Bonjour Madeleine et bonjour à tous.
Votre ouvrage, il pose aussi la question, donc c'est un ouvrage qui porte sur le dialogue, sur la recherche de la vérité, et il pose aussi la question du monde contemporain. Est-ce qu'on peut porter les interrogations du monde contemporain sans pour autant le juger? Et au fond, votre question, c'est comment ne pas écarter le conditionnement du temps présent sans pour autant en être esclave. Et donc, on le voit bien, c'est pas une position forcément toujours facile. Vous abordez des grandes questions sociales et sociétales, et vous vous interrogez notamment sur l'influence des courants libertaires, on pourrait presque dire des lobbies, face auxquels l'Église doit pouvoir trouver sa position et sa place, et c'est pas toujours facile. On le voit dans les médias, on sent qu'il y a une tension très forte. Est-ce qu'on peut entendre la vérité de l'Église aujourd'hui sur des questions comme celle de l'homosexualité, par exemple ?
Poser là effectivement une question difficile dans la mesure où il y a des courants qui sont très, je dirais, à l'écoute de tout ce que l'on peut dire sur un domaine précis et qui épingle le premier qui ouvre la bouche sur un sujet quand il a un langage qui ne correspond pas à ce qu'ils estiment être le politiquement correct. Et ça, c'est très délicat pour l'Église parce que nous ne sommes pas formés nécessairement dans le séminaire ou dans nos études supérieures à avoir ce type de comportement. Vous voyez, on parle souvent bâton rompu, un chat c'est un chat, une expression c'est une expression. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à être délicat, ça c'est sûr. Ne pas heurter de front les sentiments, les sensibilités. Saint Ignace de Loyola, par exemple, que je suis dominicain, mais nous admirons beaucoup les saints de toute l'Église, disait que lorsque l'on rencontrait quelqu'un, il ne fallait jamais se mettre à contre pour pouvoir continuer à dialoguer avec lui et le porter peut-être un jour à faire les exercices et à découvrir donc Jésus-Christ vivant dans sa vie. Donc il y avait le sentiment que nous sommes des hommes de pont, hein, pontifex. D'ailleurs, un pontife, c'est ça que ça veut dire, c'est un faiseur de pont. Et c'est le sentiment chrétien, a priori, qu'on ne doit pas être des battants, je dirais, dans l'expression qu'on va chercher pour répondre du tac au tac, voyez, à des expressions qui nous atteignent. Notre but est plutôt un but d'aider, de tendre la main, de sauver. Et Jésus, sans cesse, dans les 3 années de sa vie terrestre, avant sa Pâque, eh bien, a montré qu'il était l'homme de la main tendue, l'homme qui va vers la détresse, qui va vers celui qui est malade, à condition, bien sûr, qu'il se présente comme malade. C'est ça la grosse difficulté que nous avons quand nous rencontrons des groupes de personnes qui ne veulent plus reconnaître qu'ils ont besoin du médecin. Eh bien, il y a des passages dans l'Évangile qui sont extrêmement durs sur les hypocrites, sur ceux qui ne veulent pas se reconnaître faibles, qui ne veulent pas se reconnaître comme blessés dans leur sensibilité, dans leur vie. Et je dirais, on est en face d'un mur et Jésus a des paroles graves et très exclusives, si vous voulez, par rapport à ce monde-là. Et dès que nous nous heurtons à des réalités de ce type-là, alors je dirais, nous ne pouvons pas faire mieux que le maître. Notre Seigneur d'ailleurs nous l'a dit dans l'Évangile à ses apôtres, vous ne serez pas plus grand que le maître. Et là où le maître est exclu, les disciples sont aussi a priori. Et l'Église s'est prononcée d'une manière très claire dans Persona Humana à l'époque de Paul VI sur l'homosexualité. L'homosexualité qui a toujours été présentée comme une faille, si vous voulez, dans la nature humaine. Et saint Thomas disait, il est naturel que ce qui est faillible défaille quelquefois. Donc c'est une sorte d'atavisme, quelque chose qui tombe sur quelqu'un d'une manière imprévue. C'est pas dans les gènes, comme a prouvé une étude récente aux États-Unis de grands savants. Et c'est autre chose, et c'est quelque chose qui est structurel et qui se transmet par une éducation, par une société, par différents facteurs, mais qui rend la personne moins apte à la finalité telle que l'on découvre dans la Bible. Alors c'est son chemin, chacun a son chemin, mais nous reconnaissons que en soi, chaque chemin peut être sanctificateur, peut être source de sainteté. Donc personne n'est exclu, mais il y a des actes qui excluent, si vous voulez, des actes graves, intrinsèquement mauvais, comme dit le pape Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, qui fait que quelque chose est entamé dans l'autre. Et cela ne peut pas convenir au royaume de Dieu. Saint Paul le dit explicitement dans de nombreuses lettres. Il y a des actes qui deviennent, je dirais, et qui excluent quelqu'un du royaume de Dieu. S'il y a un penchant, le penchant est toujours une occasion de combat, une occasion de, parfois de chute, mais d'un relèvement quand on est croyant et qui permet d'un cheminement vers la sainteté. Donc vous voyez, la position de l'Église est délicate parce qu'elle ne condamne personne, elle ne condamne pas une catégorie de personnes, mais en même temps elle dit où sont les actes mauvais. Et ce n'est pas facile parce que la tendance, je dirais, de notre société, c'est de faire une équation d'égalité entre celui qui pose un acte et le qualificatif qui correspond à cet acte. Par exemple, quelqu'un vole, on dira c'est un voleur. Vous voyez ? Eh bien, l'Église dit non. C'est quand même un peu paradoxal. Vous voyez ? Quelqu'un pose un acte, on dit oui, il a posé un acte. Mais est-ce que c'est vraiment un voleur ? Vous voyez ? Et peut-être qu'il a déjà demandé pardon. Et peut-être que déjà il s'est repenti. Alors l'acte est mauvais, il faut vraiment le condamner. Mais est-ce qu'on doit aussitôt mettre une étiquette sur quelqu'un ? Il est créé à l'image et ressemblance des dieux et peut-être qu'il a déjà fait un chemin comme le bon larron à côté de Jésus, tout à fait extraordinaire, pour se tourner vers Dieu.
Toute la question est parfois aussi d'intégrer les nouvelles découvertes scientifiques. Vous évoquiez cette étude aux États-Unis, mais on le sait par exemple par rapport aux neurosciences, etc. C'est pas toujours évident aussi de ne pas se jeter dans la précipitation et en même temps de tenir compte de certaines études.
Oui, alors les études, nous devons sans cesse les garder comme quelque chose de tout à fait précieux parce que comme pour, je me souviens, le père Congar disait « l'exégèse historico-critique, j'en ai sans cesse usage, j'y fais sans cesse recours, mais je ne demande pas à l'historico-critique de juger comme un théologien. Je reste théologien, moi, parce que je suis théologien et l'historico-critique va m'aider dans mon travail de théologien. Mais je ne demande à ceux qui font l'historico-critique de ne pas se permettre d'aller au-delà de leur catégorie, au-delà de leur limite de science. La science est toujours limitée.
Vous abordez aussi les questions qui sont liées à la vie, notamment en essayant de voir à travers le prisme de la tentation, celui de la tentation de l'avoir. Nous sommes dans une société de consommation, une société de confort, de bien-être. Et vous citez Saint Paul, tout est permis mais tout n'est pas profitable. Alors dans quelle mesure notre liberté a besoin de la tutelle du bien, on pourrait dire en quelque sorte, en quoi le Christ libère le croyant par rapport justement peut-être à une société qui l'embarque dans d'autres échelles de valeurs?
Alors il y a différents degrés de liberté. On retrouve le thème de la hiérarchie des vérités. Vous avez la liberté d'abord extérieure, comme le peuple juif qui était esclave en Égypte et la grande libération qu'il a pu obtenir sous la houlette de Moïse à travers l'intervention du Seigneur, eh bien, c'est une libération déjà des activités extérieures, une liberté d'aller où l'on veut, vous voyez, une liberté externe. Et puis vous avez une liberté plus cachée qui est la liberté de choix intérieur. Épictète, en pleine prison, disait « Nul ne pourra me forcer en prison à penser ce que je veux penser ou à ne pas penser ce que je ne veux pas penser ». Il y a une liberté de choix qui fait que quelqu'un va choisir en toute lumière telle et telle chose plutôt que telle et telle autre. Et le libre arbitre est un bien, mais la liberté de faire le mal est un mal. C'est ça la grosse difficulté pour chaque homme. C'est saint Thomas qui le dit. Et le troisième degré de liberté, c'est justement la découverte qu'on a en soi des penchant mauvais, hein, que l'on voit déjà dans le livre de la Genèse. La première fois où le mot « cœur » apparaît dans l'Écriture, c'est pour dire que l'homme a un penchant mauvais. C'est assez frappant. Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 8, le mot « cœur » apparaît les deux premières fois, c'est pour dire qu'il a des penchants mauvais. « Yetzer hara » en hébreu. Et ce « yetzer hara » fait qu'on s'aperçoit que, dans le fond, notre liberté, c'est très beau, mais qu'elle est briefée, qu'elle est marquée par ces penchants mauvais, et qu'il faut que notre liberté soit libérée. Le dernier message de Saint Jean-Paul II à Lourdes a été de reprendre Galates chapitre 5, verset 1, dans lequel Saint Paul dit « C'est pour votre liberté que le Christ vous a libéré ». Et Jean-Paul II commentait « Eh bien, il faut que votre liberté soit libérée ».
Mais justement, parfois, on a le sentiment que les chrétiens sont les moins libres que le reste de la société. Et pourtant, on ne parle peut-être pas tout à fait de la même liberté.
Alors, on ne parle pas de la même liberté, c'est ça le problème. Si la liberté veut dire aller vers les fleurs du mal, ben, ce n'est pas une liberté, c'est un esclavage. Car lorsqu'on fait le péché, dit Jésus dans Saint Jean chapitre 7, on n'est pas libre, on est esclave. Et toutes les pseudo-libertés qui poussent l'homme à commettre le péché et le mal sont en fait des mirages et conduisent l'homme à des servitudes de plus en plus graves. Et c'est peut-être ça, cette société de consommation qui a cru se libérer de fatalisme, de corvées, de difficultés, et qui en fait a appesanti l'homme parce que l'homme a eu beaucoup moins de liberté intérieure.
Merci, Père Édouard d'Ivry. Vous êtes dominicain de la province de Toulouse et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église » aux éditions Arthège. Merci beaucoup.
Merci.